écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. En ce mois de juin, il vous a réservé de grandes surprises littéraires avec Daniel Rondeau de l'Académie française, Jean-Marie Baron, avec Angela Martens et Yasmina Kramer, avec Aliye Ataï, un nouveau nom, et Gérard Guicheteau, avec Franz Vaillant et Douglas Kennedy. Voilà. Alors, je commence par le premier livre, roman-récit, Beyrouth sentimental, de Daniel Rondeau, édité par Stock de l'Académie française. Ensuite, j'enchaînerai avec Le fils du gouverneur de Jean-Marie Baron, édité par Baker Street, sur le destin incroyable de François Baron, qui deviendra le dernier gouverneur en Inde. Le troisième roman, c'est Petite fille perdue d'Angela Martens, récit romanesque et noir chez Bellefond, un grand nom de cette littérature policière. Le quatrième roman, La Louve de Dersim, de Yasmina Kramer, chez Bellefond, un récit proche de la réalité qui se déroule au Kurdistan. Voilà. Le cinquième livre, La frontière des oubliés, il y aura une pause musicale. Et la frontière, j'enchaîne avec La frontière des oubliés, d'Aliye Ataï, une nouvelle voix venue d'Iran, parue chez Gallimard. Le sixième roman témoignage, ce sont les 13 journées qui ont fait la Vendée, revenir sur cette guerre de Vendée, de Gérard Guicheteau au Cerf. Voici le mémorial de leur martyr. Et puis, à l'ombre des étoiles, là je vais aussi vous étonner, de Franz Vaillant au Cerf. Et puis, je pense encore un petit peu de temps pour vous présenter le nouveau livre de Douglas Kennedy. Et c'est ainsi que nous vivrons, dit-il, en 2045, une Amérique bouleversée avec une nouvelle sécession entre catholiques et progressistes. Voilà, donc je vous parlerai de tout ça. Alors, je commence par le premier, Beyrouth sentimental, de Daniel Rondeau, de l'Académie française, qui est paru chez Stock. Il a été chargé d'une mission au Liban de 1987 à 2022. Il a posé son fond sur le cœur du pays du Cèdre et il a vu les pulsions de Beyrouth dans sa tête. En rencontrant des savants, des miliciens, deux divas, quatre présidents, des vagabonds, des émirs, des milliardaires, une infirmière, une braqueuse de banque, des poètes, des gens ordinaires et quelques saints peut-être. Donc on retrouve toutes ces rencontres dans ce livre « Beyrouth sentimental » de Daniel Rondeau, et leur concert a fait la gloire d'un pays opulent, mais où tous les diables de la planète semblent s'être donné rendez-vous. Oui, je le répète, tous les diables de la planète semblent s'être donné rendez-vous. Voilà pourquoi le Liban a beaucoup de mal à se redresser. Le récit « Beyrouth sentimental » dessine le visage d'un peuple qui a plus que jamais faim de liberté et de fantaisie, toujours gourmand du miel de la vie, mais que pour la première fois, il a saisi, dit-il, en flagrant délit de désespérance. Et tous ceux qu'il aime attendent le réveil de la lumière. Demain à Beyrouth est toujours un autre jour. Je voulais vous lire un passage de ce livre récit sur ce Liban désorganisé. Atir, il a rencontré une femme, Rabab Sadr, qui est sœur de l'imam disparu en Libye, qui était le chef spirituel et politique des chiites libanais. Rabab nous reçoit avec son fils, Raed Sharafeddine, banquier, grand sportif et amateur de cigares, dans les locaux modernes de sa fondation. Il a foulard bleu. Bon. Rabab porte son âge et sa sagesse avec le sourire. Après une école d'art et de stylisme en Italie, dans sa prime jeunesse, elle a un doctorat de philosophie plus tardivement. Fière de ses 11 petits-enfants, elle fait vivre l'œuvre caritative de son frère, dont elle a accroché plusieurs portraits au mur de son bureau. Nous sommes une famille religieuse depuis 1000 ans, explique-t-elle, et nous avons toujours été ouverts aux autres religions. Mon frère s'opposait à la violence et militait pour la paix. Il dérangeait beaucoup de gens. Je pense maintenant qu'il a été tué. Plusieurs chefs d'État arabes voulaient se débarrasser de lui. Je suis persuadé qu'il y a eu une conjuration entre Kadhafi et Yasser Arafat. Arafat est à mon sens responsable du kidnapping de l'imam. Il a probablement demandé à Kadhafi de l'exécuter. Avec sa disparition, ce sont non seulement les chiites qui ont perdu un leader politique et spirituel, mais le Liban tout entier. Nous partions, ajoute-t-elle, dit Rabab, il existait au Liban une convivialité exceptionnelle entre les communautés. Beaucoup de mariages mixtes. C'était avant l'arrivée des Palestiniens. Les guerres internes du Liban, c'était tout simplement une guerre prolongée entre Libanais et Palestiniens. Mon frère a tout fait pour éviter que ces conflits ne s'installent. Il était allé voir Jumblatt, chef des Palestiniens progressistes, Yasser Arafat, Gemayel et Chamoun. Mais les appétits palestiniens au Liban étaient trop grands. À Tyr, les Palestiniens sont encore dans des camps sous le contrôle de l'armée libanaise. La concorde reviendra, mais de façon différente. La vie a changé, les gens ont changé, pas simplement au Liban. Rabab Sadr évoque la présence des réfugiés syriens. Oui, ça c'est nouveau, des réfugiés syriens. Ces Syriens, il a d'abord fallu les accueillir à bras ouverts, comme les Palestiniens autrefois. Maintenant, leur présence crée un problème politique majeur. Le petit Liban exergue ne peut supporter ce fardeau. Les agences de l'ONU les incitent à rester au Liban. Et si nous les gardons, l'issue de cette histoire risque d'être tragique. Voilà, je m'arrête là, dans cette lecture édifiante. Beyrouth sentimentale de Daniel Rondeau. Oui, nous pouvons prier aussi Notre-Dame du Liban, qui est un trait d'union entre chrétiens et musulmans, afin que, comme le dit, que cet autre jour vienne, voilà, l'autre jour du Liban vienne. Le deuxième livre que je présente, Le fils du gouverneur, c'est de Jean-Marie Baron. Aux éditions Baker Street, c'est une diffusion Gilles Paris pour moi. Je remercie Gilles Paris parce que c'est aussi un livre d'aventure. Ce livre-récit est un hommage d'un fils pour son père, François Baron, un personnage tout à fait étonnant, qui a été surréaliste dès 1922, ami d'Aragon, de Desnos, de Crevel. Il fume l'opium à la terrasse des Deux Magots à Paris. L'opium sera d'ailleurs sa bête noire. Il devient administrateur des colonies, tout d'abord à Dakar en 1927, puis à Mopti sur les bords du Niger. Il est aussi le premier Français de l'étranger à répondre à l'appel du 18 juin en 1940, l'appel de De Gaulle. Depuis son poste Chandernagore, où il était en poste en Inde, avant d'être nommé délégué de la France libre pour tout l'Extrême-Orient, puis de rejoindre De Gaulle à Londres, et même d'assister Kessel et Druon et Germaine Sablon, la chanteuse, dans l'écriture du Chant des partisans. Ça, c'est Jean-Marie Baron qui le dit, car j'avais une autre version, mais voilà. Donc, devenu en 1945, François Baron, gouverneur de l'Inde française, dans les meilleurs rapports avec l'administration indienne et Nehru. Et il entame à Pondichéry. Pondichéry, c'est là que le fils Jean-Marie Baron retrouvera son père à 10 ans. Ce qu'il considère donc à Pondichéry, François Baron entame ce qu'il considérera comme sa dernière et grande aventure spirituelle cette fois, en devenant disciple de Sri Aurobindo. Tout cela, on le retrouve bien dans ce roman, dans ce texte, Le fils du gouverneur de Jean-Marie Baron, qui est paru aux éditions Baker Street. La vie de François Baron, à laquelle son fils Jean-Marie mêle en filigrane des éléments de son existence, tout aussi éclectique. Il deviendra un grand voyageur, un grand reporter, nous entraîne dans une formidable aventure à la fois politique, culturelle et spirituelle. Une flamboyante traversée du XXe siècle, c'est très émouvant. Alors j'ajoute quand même pour dire que ce Jean-Marie Baron, est journaliste et critique d'art, enseignant en histoire de l'art à l'Université de Paris 8, a sillonné les continents de Kaboul à Mexico, en passant par Pondichéry, Bornéo, Hong Kong et New York. Il a co-réaliser des films sur Tapies, sur César, sur Garouste. Et puis, il a dirigé un département de l'agence Gamma en lien avec l'UNESCO, en faisant des ouvrages sur Tapies, sur Caillebotte, sur Rembrandt, sur la Bible, sur Cézanne, les natures mortes. Donc, c'est vraiment un grand nom. Voilà. Je voulais ajouter ceci pour vous dire que Jean-Marie Baron, avec le fils du gouverneur, fait un très bon livre, un très bon récit. Et je passe au troisième livre, qui est un peu différent de cela, « Petite fille perdue » d'Angela Marson, qui vient de paraître chez Belfond, qui est paru chez Belfond. J'avoue que je découvre avec enthousiasme cette autrice anglaise du Royaume-Uni aux 4 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Et avec ce nouveau roman, Petite fille perdue, édité par Belfond, comme les deux précédents titres, mais que l'on peut lire aussi en pocket si ce n'est déjà fait. Dans ce nouveau récit, nous retrouvons son personnage emblématique, l'inspectrice Kim Stone, pleine d'empathie et de détermination pour mener son enquête jusqu'au bout. Deux familles amies, les Timmins et les Hanson, sont deux familles qui s'entendent à merveille et dont les petites filles de 9 ans, c'est jeune, les petites filles, ce seront elles les petites filles perdues, les petites filles de 9 ans, Charlotte et Amy, sont inséparables jusqu'au jour où elles sont enlevées et qu'un SMS, un message foudroyant, annonce à leurs parents qu'elles ne rentreront pas à la maison. Il y aura même une surenchère afin que l'une soit saine et sauve, mais pas l'autre. C'est incroyable. Chargée de l'enquête, Kim Stone et son équipe sont saisies d'effroi, surtout face à ces exigences terribles de la part des ravisseurs, un mode opératoire déjà pratiqué dans un autre kidnapping un an plus tôt qui s'était soldé par un drame terrible. Alors, on découvre des fausses pistes, on mène l'enquête avec Kim Stone, on découvre des fausses pistes, des impasses, des pressions médiatiques importantes, car la presse pense savoir ce qui se passe exactement, mieux que la police. Et Kim Stone va devoir lutter pour garder l'esprit clair et empêcher les deux familles de se livrer à des enchères mortifères. On voit bien d'ailleurs les deux gamines enfermées dans une sorte de cellule, Charlotte et Amy, mais qui se tiennent les coudes. Une course contre la montre est vraiment lancée parce que Kim Stone entend bien arriver, parvenir à délivrer les deux gamines ensemble. Angela Marson signe ici une nouvelle fois un thriller plein d'émotions et hautement compulsif, là je peux vous l'affirmer, sur un cauchemar universel qu'on enlève des enfants. C'est une chose impardonnable. Petite fille perdue d'Angela Marson qui vient de paraître, qui est parue chez Belfond. Et je vous livre, vous parle d'un autre récit, d'un autre texte, La Louve de Dersim de Yasmina Kramer, chez Belfond aussi, mais pas en roman noir, chez Belfond. D'origine allemande et marocaine, Yasmina Kramer est née en Algérie en 1981. Elle l'a quittée pour la France en 1988. Elle a effectué des séjours au Kurdistan, dont elle connaît très bien, raison pour laquelle ce récit se passe au Kurdistan, en Syrie et en Irak. La répercussion des conflits sur les populations, les guerres, les conflits des guerres, l'intéresse particulièrement. Ce que l'on ressent très bien dans ce récit. La Louve de Dersim, avec une carte appropriée qui est jointe au livre, une carte qui met en valeur les Kurdes au combat, entre la Turquie au nord, la Syrie au sud et l'Irak à l'est, et les villes de Sangal, Sizir, Kobani, Dersim, Bakour, Rojila. Une véritable découverte pour nous, Français, qui ne connaissons pas toujours la géographie de ces lieux. Et le 13 novembre commence ce récit, le 13 novembre 2015. Vous vous souvenez, les attentats de Daesh, le 13 novembre 2015 à Paris. Paris qui compte ses morts. Au même moment, à 4000 km de là, les forces kurdes libèrent la ville de Sangal en Irak. Parmi elles, de nombreuses jeunes femmes venues en renfort sur le terrain. Des guerrières rompues au maniement des armes, ou qui apprennent, il y en a des plus jeunes, plus nouvelles, qui apprennent le maniement des armes, aux réflexes à avoir en temps de guerre, qui n'hésitent pas à combattre Daesh. Des femmes déterminées, comme Assia dite la louve de Dersim, Berfine la narratrice et combien d'autres qui sont nommées dans ce texte. Prêtes à tout pour défendre les valeurs, leur soif d'émancipation. Yasmina Kramer les a suivies et a voulu leur rendre justice. Et elle le fait admirablement bien. À celles qui ont choisi les armes pour sauver leur liberté, et la nôtre aussi, parce que combattre Daesh, nous sommes aussi des malheureux de Daesh. Voici, avec la louve de Dersim, un premier roman sidérant, au plus près du réel, jusqu'à la mort pour certains ou certaines. Merci à Yasmina Kramer pour ce témoignage inédit. Des femmes au combat qui ne veulent pas tomber sous le joug des islamistes et pour retrouver l'identité dont on les a privées depuis si longtemps. Et l'on fait une pause musicale en écoutant un rondo de Franz Schubert. Thank you. Voilà, une très très belle musique de Franz Schubert, ce grand musicien romantique, avec trois concerts exceptionnels, je vous l'ai annoncé, mais je vois que la radio l'a fait aussi, à l'auditorium de Perona, trois artistes de renommée internationale, le 30 juin à 19h30, Shoko Gamo, la grande pianiste japonaise, au jeu fin et délicat, qui revient spécialement pour nous enchanter, avec Romain Leleu, trompettiste aussi doté d'un jeu lumineux et virtuose en pleine actualité. Le 1er juillet, Shoko Gamo est avec Anne Lepage, clarinettiste que nous connaissons bien et qui, dès le concert donné, est invitée à Denver, au Colorado, tout de suite après, comme soliste. Voilà. Et puis, le 2 juillet, c'est le récital de Shoko Gamo qui va interpréter à sa manière Franz Schubert. Voilà, à l'auditorium de Perona. Voilà. Si vous n'avez pas réservé vos places, eh bien, il faut le faire. Voilà, à très bientôt au l'auditorium de Perona. Et puis moi, je vous retrouve pour un nouveau livre, La frontière des oubliés. La frontière des oubliés, c'est de Aliye Ataï, qui vient de paraître chez Gallimard. C'est un peu la suite, je trouve, parce qu'on retrouve la guerre encore, de La Louve de Dersim. Même si c'est un petit peu à côté, c'est entre l'Iran et l'Afghanistan. Voilà, donc on est un peu plus à l'est encore par rapport à l'Iran, comme on avait vu sur la carte de La Louve de Dersim, l'Iran, l'Afghanistan est à côté. Née en 1982, Aliye Ataï est une écrivaine et poétesse irano-afghane qui a déjà publié 5 livres en Iran où elle reçut de prestigieux prix. La frontière des oubliés, sa dernière parution en Iran, est parue en 2021 et c'est son premier texte traduit en français. Et l'on découvre vraiment un style extraordinaire. Dans ce texte, 9 récits composent La frontière des oubliés et retracent le parcours de l'écrivaine dans un style qui mêle simplicité et une force incroyable. Depuis sa fuite enfant de la frontière afghane, pour se bâtir une vie en Téhéran, où elle vit actuellement. Sur une carte, on voit bien la frontière entre ces deux pays. Dans chaque... Voilà. Elle n'est pas jointe au livre, mais si vous avez La Louve de Dersim, vous comprendrez comment ça se passe. Dans chacune de ces vignettes de vie qui composent cet ouvrage, qui se font écho, elle brosse le portrait de ses compatriotes exilés, des frontaliers, souvent des femmes qui portent tous des traces de la guerre, voilà, des plaies profondes marquées par des balles invisibles. À chaque rencontre, elle s'interroge sur la violence, l'exil et l'identité. Parce qu'il faut dire qu'au départ, l'Iran, cette frontière, ce qui est considéré comme la frontière, vivait en harmonie entre Iraniens et Afghans. C'était leur terre commune. Mais malheureusement, lorsque les Soviétiques sont arrivés et ont envahi l'Afghanistan, il y a eu, à ce moment-là, création d'une frontière artificielle, mais aussi qui est comme un séisme. Donc, elle s'interroge, cette Aliye Ataï, sur la violence, l'exil et l'identité, et en s'imprégnant de son propre vécu, Alié Ataï embrasse ici plus largement le sort de tous ceux qui ont hérité des chromosomes, ce qu'elle appelle des chromosomes douleurs, des chromosomes douleurs. Ce faisant, parce qu'il reste quand même là, même si la vie y est particulièrement difficile. Se faisant l'écho de leur voix si peu audible. Et je vais lire un passage de ce livre, La frontière des oubliés, d'Alié Ataï, pour vous faire comprendre. Donc, chaque vignette de vie qui est romancée, mais très bien romancée, qui forme un texte, est précédée d'un commentaire qu'elle-même donne. Il y a le temps de ceux qui restent et le temps de ceux qui partent. Pendant que les premiers le voient défiler sous leurs yeux, les autres sont emportés dans son tourbillon. Ils en trouvent toujours un pour objecter, celui qui ne fait que traquer les criminels dans les journaux. Les moudjahidines ont tué les communistes. Les talibans ont tué les moudjahidines. Les Américains ont tué les talibans. Et malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, ce sont les talibans qui sont revenus. Et les Américains sont partis. La presse et les sites d'information foisonnent de ce type de données qui érigent les héros d'aujourd'hui en criminels de demain. Admettons qu'il soit possible, tout en étant loin de son pays, de mesurer le temps par l'actualité des crimes de guerre. Soit, mais uniquement tant que l'amour ne s'en mêle pas. L'amour chamboule toutes les équations. Je sais, il est difficile d'imaginer qu'on puisse tomber amoureux dans un tel chaos. Pourtant, cela arrive, et quand celui que l'on aime repose au cimetière, tous les criminels se ressemblent, et il n'y a plus de héros sur le champ de bataille. La guerre modifie l'équation de l'amour. Ce sont deux lignes parallèles qui se suivent jusqu'à l'éternité sans jamais se croiser. Quand la guerre emporte celui que tu aimes, c'est comme si la balle vient percer ton cœur, ne s'arrêter jamais. Voilà, j'arrête là cette lecture édifiante de La frontière des oubliés, qui nous fait découvrir une nouvelle plume puissante venue d'Iran, celle de Alié Ataï, qui dévoile des vérités qui secouent et qui bouleversent. Oui, nous sommes vraiment secoués et bouleversés par cette écriture d'Alié Ataï sur la frontière des oubliés, qui vient de paraître chez Gallimard. J'avais prévu un sixième roman. Là, on revient en France, une France douloureuse, la guerre de Vendée. Les 13 journées qui ont fait la Vendée de Gérard Guichetot, qui vient de paraître aux éditions du Cerf et que j'ai reçu aussi grâce à Gilles Paris. On a beaucoup parlé de cette Vendée, il y a un film « Crève ou mourir » qui a eu beaucoup de succès. Cet ouvrage est un état des lieux pour moi, les 13 journées qui ont fait la Vendée. Tout à fait remarquable exemplaire, car son auteur, Gérard Guichetot, semble avoir tout lu des témoignages de cette guerre de Vendée, que ces témoignages soient royalistes ou républicains. Comment la Vendée s'est-elle embrasée ? Comment une troupe spontanée, hétéroclite, désorganisée, s'est-elle constituée vraiment pour passer la Loire? Qui étaient les insurgés, leurs chefs, et quels furent leurs faits d'armes, car ils furent nombreux? C'est ce que nous découvrons réellement dans cet ouvrage haut en couleur. Avant les Chouans, les colonnes infernales, la répression et le triomphe des Bleus, des Républicains des Bleus, il y eut ces 13 journées qui virent tout un peuple se lever. Voici racontée l'épopée de l'armée catholique royale. Voici comment des humbles se rebellèrent et comment des paysans, oui, des paysans qui arrêtaient les travaux de la terre pour venir combattre, comment des paysans se firent les premiers partisans. Il fallait Gérard Guichetteau pour plonger, pour nous plonger dans l'océan des archives et des écrits et en exhumer l'histoire enfouie. Voilà, c'est ça qui est capital dans ces 13 journées qui ont fait la Vendée, c'est qu'on retrouve exhumer l'histoire enfouie, dresser la chronique oubliée de ces quelques jours qui ébranlèrent à jamais le mythe révolutionnaire. Il nous raconte avec science et passion cet exode parti du bocage pour y retourner au prix du sang versé, de l'appel à la mobilisation des paroisses, à l'échec devant les murailles de Nantes, en passant par la prise de Saumur et la déroute de Cholet, on suit le périple héroïque de ces 100 000 hommes, femmes et enfants, qui hésiteront à marcher sur Paris, qui ne parviendront pas à rallier la Bretagne, c'est ce qu'ils auraient voulu faire, et qui craindront que, prêts à s'embarquer pour l'Angleterre, certains, je ne dis pas tous, certains de leurs chefs ne les trahissent. Tout ce périple héroïque, tous ces 100 000 hommes, femmes et enfants, vont connaître l'errance, la faim et la mort. Voici le mémorial de leur martyr, les 13 journées qui ont fait la Vendée de Gérard Guichetteau au Cerf. C'est vraiment à lire pour connaître le fond de cette guerre de Vendée. Voilà. Alors j'ai un 7e livre qui est étonnant, qui est très différent, qui est « À l'ombre des étoiles » de Franz Vaillant, qui est paru également au Cerf, diffusion aussi de Gilles Paris. Un livre vraiment étonnant, avec une question saisissante. Il arrive que les têtes d'affiche aient aussi des têtes blondes. Mais le plus souvent, être un fils ou une fille d'eux n'est guère une bénédiction. D'ailleurs, au regard de leurs illustres géniteurs, qui se soucie du sort de ces obscurs rejetons? Et Franz Vaillant dresse les itinéraires d'enfants, pas forcément gâtés, avec un remarquable talent, car ce livre est aussi un magnifique et sensible tableau des mœurs françaises, car il revient aussi, par ce texte, sur l'existence de ces illustres géniteurs, des écrivains ou des artistes, aussi différents mais aussi singuliers, que furent Jules Verne, Maupassant, Verlaine, Max Linder, Colette, Albert Camus, Picasso, Jacques Prévert, Léo Ferré et Boris Vian, que Franz Vaillant n'a pas connu Boris Vian, si peut-être, mais il est héritier. Ils doivent leur célébrité aux œuvres dont ils ont illustré deux siècles de créativité française et qui, ayant traversé les temps, perdurent dans les cœurs. Loués ou honnis, ils ont suscité des essais biographiques qui ont disséqué leur existence, des traités théoriques qui ont analysé leur art, des écrits polémiques qui ont débattu leur talent, et que Franz Vaillant a retrouvé et redonne dans ce texte « À l'ombre des étoiles ». Ils ont aussi fait des enfants, mais qui le sait ? Personne ne connaît vraiment ces êtres de chair et de sang qui saluaient quotidiennement d'un papa ou maman les génies inscrits au Panthéon national. C'est à 10 de ces héritiers inconnus, ou presque, je dis presque parce que Colette, je savais que j'ai étudié Colette, je l'ai même apprécié beaucoup, et je sais qu'elle a eu une fille, Colette. Et de ces parfaits anonymes au patronyme célèbre que Franz Vaillant a voulu rendre justice en leur restituant leur statut d'ayant droit. Voilà. Et certains vont défendre les œuvres de leur père. Avec lui, nous les accompagnons sur leur chemin de solitude, souvent livrés à eux-mêmes, condamnés à vivre éternellement dans l'ombre de leurs prestigieux parents, à éprouver la souffrance d'une paradoxale naissance, mais pour certains voulue quand même, et d'une destinée fracassée. Alors je voulais vous lire un passage, parce que c'est un tableau, ce livre « À l'ombre des étoiles » de Franz Vaillant, paru au Cerf, est un tableau de mœurs inédit, sensible et saisissant. Je voulais vous lire un passage sur Mathieu, fils adultérin de Léo Ferré. Cet album, l'espoir, est celui de la rupture pour l'artiste monégasque. Le compositeur, chanteur, poète a dénoncé son contrat chez Barclay. Et cet album clôt une collaboration commencée une dizaine d'années plus tôt. Désormais, jusqu'à la fin, Léo Ferré sera son propre producteur et orchestrateur. Léo Ferré est alors un papa tout neuf, âgé de 54 ans. Sa femme, Marie-Christine, en avait 23 quand elle donne le jour à Mathieu, le 29 mai 1970, en Suisse. J'étais un enfant adultérin parce qu'à ce moment-là, Léo était marié avec une autre femme. C'était répréhensible aux yeux de la loi. Et des juges qui disent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je suis né en Suisse parce que les Helvètes sont des gens discrets. Ils ont le secret bancaire, mais aussi celui des naissances. Si mes parents avaient décidé de me faire naître en France, il est très probable qu'il y aurait eu des fuites dans les journaux à scandale. Mathieu ne dit jamais « papa » quand il évoque sa mémoire. Mon père, il est dans un trou, alors que Léo, l'artiste, lui, est toujours là. Alors, je voulais dire, une fois le divorce prononcé, voici Léo Ferré de distiller publiquement quelques confidences sur la venue de cet enfant, de Mathieu, son enfant. C'est mon fils que j'ai caché pour des raisons privées pendant 3 ans et demi, et maintenant, comme je n'ai plus à le cacher, je le montre d'une façon agressive. Je voudrais lui apprendre certaines choses précises qui lui serviront à ne pas marcher sur le voisin, jamais, à respecter la vie, même des plus petits insectes, et à faire l'amour bien. Voilà. Dans les Chants de la Fureur, pour bien comprendre cela, dans un texte essai sur le mariage, Ferré interpelle Madeleine, sa seconde épouse. Tu ne m'as jamais donné d'enfant. Tu prétendais que tu ne pouvais pas en avoir. Tu avais les trompes bouchées, parce que tu avais fait 3 fausses couches consécutives avant de me connaître. 1 an avant, tu leur as dit ça au juge, voilà. Ferré est capable de devenir père, et il vient de le savoir à tout le monde, et dès que l'occasion se présente, sa vie durant, il rendra hommage à sa nouvelle et dernière femme. Voilà le passage que je vais vous lire de ce « À l'ombre des étoiles » consacré à Léo Ferré, qui était très heureux d'avoir un fils Mathieu. Donc, voilà une formidable enquête de Franz Vaillant à lire absolument pour un plaisir rare, voilà, de découvrir tous ces auteurs et en même temps leur rejeton. Un tableau de mœurs inédit, sensible et saisissant. Voilà que je voulais vous dire. Alors, il me reste encore quelques minutes. Je vais donc pouvoir vous parler d'un autre livre, du nouveau livre de Douglas Kennedy. Et c'est ainsi que nous vivrons. Après le livre que j'avais lu, pas présenté parce que Après les hommes ont peur de la lumière, voilà, qui montrait Douglas Kennedy poursuit sa fresque d'une Amérique plus divisée que jamais. Un roman choc, glaçant, de réalisme. Le constat effrayant de ce que pourraient bientôt devenir les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, dans ce nouveau essai, roman, c'est un roman, nous sommes, Douglas Kennedy nous place en 2045. Les États-Unis n'existent plus, car dans le premier livre, il y avait une guerre entre les pro-vie et les pro-avortements, les catholiques et les progressistes. Et l'on retrouve, donc dans ce 2045, les États-Unis n'existent plus, une nouvelle guerre de sécession, on a redessiné les frontières. Sur la côte, les côtes est et ouest, il y a une république où la liberté des mœurs est totale, mais où la surveillance est constante. Et ça, il montre bien qu'il y a des gens, il y a des puces, il y a des gens qui vous surveillent constamment. Dans les États du centre, une confédération où divorce, avortement et changement de sexe sont interdits, où les valeurs chrétiennes font loi. Et ces deux blocs se font face, chacun redoutant une infiltration de l'autre camp. Et c'est justement la mission qui attend Samantha Stengel, dite Sam, agente des services secrets de la République, cette professionnelle reconnue réputé pour son sang-froid, s'apprête à affronter l'épreuve de sa vie, parce qu'elle doit passer de l'autre côté de la frontière, dans un territoire, une zone réputée, voilà, passer de l'autre côté dans un des États confédérés, parce que de l'autre côté, donc c'est l'État confédéré, les plus rigoristes, sur les traces d'une cible aussi dangereuse qu'imprévisible. Alors là, ce qui fait Douglas Kennedy a l'idée de faire une idée cornélienne, de faire affronter deux demi-sœurs, Samantha Stengel et CS, qui est Katharine, sa demi-sœur. Que son père, pourtant Samantha adore son père, mais son père a eu une liaison avec une autre femme, et elle a eu une autre fille qu'il a soutenue, mais à un moment donné, il l'a abandonnée pour se consacrer à Samantha. Donc, cette demi-sœur est dans un camp, alors qu'elle est avec les républicains, et elles devront s'affronter dans un duel mortel, parce que l'une des deux devra mourir. Voilà ce que je voulais vous dire sur le nouveau roman, et c'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy, qui vient de paraître chez Bellefond. Et je vais m'arrêter là. Voilà, après toutes ces bonnes lectures que je vous propose pour ce mois de juin. Et puis je vous retrouverai en juillet, puisque la radio sera encore en alerte en juillet. Bonne lecture et à donc très bientôt. Au revoir. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.